autour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour. Avant d'être un désert, le Sahara était un espace verdoyant. Dans la Tassili-Nagère, en Algérie, des peintures rupestres d'une grande finesse témoignent de ce passé. On chassait le lion, l'autruche, il y avait des girafes et des éléphants. Des sociétés complexes s'y sont développées. Nous en parlons avec la réalisatrice Saléa Gerdan.
C'est le désert de tous les extrêmes, le plus grand, le plus chaud, le plus sec. Pourtant, ces immenses étendues de sable et de roches ne sont pas immuables.
Bonjour Saléa Gerdan.
Bonjour.
Vous êtes la réalisatrice de Sahara Vert, l'énigme du paradis perdu. Vous avez ramené ce film du Sahara algérien, qui est un endroit assez mythique, assez sublime. Est-ce que vous vous attendiez à voir ce que vous avez vu quand vous êtes allé tourner là-bas ?
Non, je pense qu'on ne peut absolument pas s'attendre à une telle beauté. Je pense qu'on ne peut pas du tout s'attendre à la sensation que j'ai éprouvée d'être vraiment, on le dit dans le film, c'est comme un des secrets les mieux gardés de l'humanité. Du coup, on a vraiment l'impression de pénétrer comme ça dans un endroit extraordinairement mystérieux, inaccessible. Très loin des hommes, géographiquement et en histoire, puisqu'on est remonté jusqu'à 10 000 ans avant notre ère. Mais évidemment, quand on voit ces forêts de monolithes de grès, on sait bien qu'il y a des millions d'années, il s'est passé des choses extraordinaires dans cet endroit.
Eh bien, on domine ici l'oasis d'Ihrir et c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'on marche au milieu de nulle part et d'un seul coup... On a une vallée qui fait un peu penser aux vallées des mondes perdus dans les romans de Conan Doyle. Hein. Et on a l'impression de faire d'un seul coup un saut de plusieurs millénaires en arrière.
Secret très bien gardé, mais finalement connu des scientifiques depuis plus d'un siècle. Il y a notamment des relevés d'Henri Lotte qui a découvert les peintures rupestres et qui est venu... avec des méthodes pas très scientifiques, hein, pour le coup, relever tous ces dessins.
Oui, oui, absolument. La chasse, alors je dis la chasse, on pourrait dire la quête aux peintures rupestres, c'est un mouvement qui a commencé à la fin du 19e siècle et qui s'est étalé comme ça sur le début du 20e siècle. Il faut imaginer des archéologues un peu aventuriers, parce qu'il faut aller hein, dans ces endroits-là qui sont coupés de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de voiture. On ne peut pas y aller en avion.
On prend le chameau pendant quelques jours pour aller jusque sur les sites,
non ? Pas tous. Il y a des sites qui sont accessibles en chameau. Et il y a des endroits où les chameaux ne peuvent pas monter.
Donc là, c'est à pied, c'est tout.
Ouais, je pense au Séfar, par exemple, qui est un massif magnifique dans lequel nous sommes allés, où seuls les ânes peuvent monter. C'est beaucoup trop abrupt, en fait, pour les chameaux. Donc, non, tous les massifs ne sont pas accessibles avec des chameaux. Et du coup, ces archéologues, il faut imaginer qu'ils sont partis un peu à l'aventure, mais quand même guidés par les Touaregs. Il faut vraiment rappeler le rôle essentiel que les guides Touaregs jouent et ont joué dans le passé. Ce sont vraiment eux qui ont indiqué aux archéologues européens qu'il y avait des peintures. Ils savaient où ces peintures se trouvaient, ils savaient où les plus belles se trouvaient. Et du coup, ils ont joué un rôle évidemment très important. Et nous, évidemment, dans le tournage aujourd'hui, un siècle après, ils ont eux aussi, là encore, joué un rôle essentiel.
C'est eux vraiment les gardiens de ce paradis perdu.
Mais oui, c'est normal. Il faut un gardien, on ne peut pas laisser des chefs-d'œuvre. Enfin, vous imaginez, c'est comme un musée à ciel ouvert. On a des tableaux partout, on se retourne à droite, à gauche, on lève la tête et on en voit. Et du coup, heureusement, les Touaregs sont là et ils sont là pour vous dire aussi, vous approchez pas trop, pas de cigarette à côté de la paroi. Ouais, ce sont de vrais gardiens.
Les personnages, regarde, ils sont beaux. On a de la chance hein, parce que tout autour, c'est abîmé, il n'y a plus rien. Un peu là, oui.
Et c'est vrai que sur ces peintures, on voit des œuvres d'une immense délicatesse qui racontent l'état de la nature à l'époque où ces œuvres ont été dessinées. Et c'est là qu'on voit à quel point le Sahara était vert.
Bah, c'est une histoire assez incroyable. Moi, j'avoue, franchement, j'en avais jamais entendu parler. C'est une histoire qui est très connue des scientifiques. depuis pas longtemps. On parlait tout à l'heure des archéologues des années 50. Donc il faut imaginer que des archéologues parcourent le Sahara, ramènent ces images complètement dingues, de façon pas très académique, hein, il faut le dire. Je pense notamment à Henri Lotte, qui a fait beaucoup de relevés et qui a abîmé pas mal de peintures. Il ramène ces images et puis d'un coup, le monde occidental se dit, mais comment il peut y avoir des gens qui ont élevé des vaches dans un endroit où on ne peut pas survivre de jour sans avoir de réserve d'eau? Comment est-ce possible d'avoir des éléphants, des animaux sauvages,
des girafes?
Donc là, les scientifiques se sont dit, OK, il y a eu un bouleversement majeur qui s'est produit au Sahara. Lequel? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand? Comment les gens ont réagi? C'est l'enquête, nous, qu'on a voulu mener dans ce documentaire.
Les habitants du Sahara vert disposaient de ressources naturelles abondantes. À partir de ces ossements d'animaux, on peut imaginer leur territoire parsemé de lacs et de rivières. Malgré son aridité, le désert porte toujours en lui la mémoire de cette eau. Pour en retrouver la trace, il faut prendre un peu de hauteur.
Dans ce documentaire, on retourne à Paris, on va dans les musées, on va aussi du côté des spécialistes de l'espace, on va voir la construction de satellites pour essayer justement de percer les secrets de ce Sahara et de son assèchement.
Mais oui, parce que on est sur un territoire qui est vierge. C'est assez paradoxal de se dire que c'est le plus grand musée à ciel ouvert du monde, le Sahara. Et en même temps, on a du mal à l'étudier parce que tout est compliqué là-bas. Et ça reste une terre sur laquelle les scientifiques ont finalement peu d'analyses à mener, quoi, parce que c'est complexe à mettre en œuvre. Une expédition scientifique, c'est complexe. Ce sont des zones qui sont politiquement pas simples du tout. Et du coup, en fait, ça reste un territoire assez vierge. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher les moyens d'investiguer une terre de 9 millions de kilomètres carrés. Et effectivement, sur une terre aussi vaste, l'espace, c'est le meilleur endroit pour observer ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a des technologies de télédétection qui permettent en fait de percer non pas seulement la surface de la terre, hein, vous êtes capable de voir s'il y a des voitures qui roulent, un convoi de camions qui roulent dans les airs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe sous la terre. Donc, on a voulu savoir si les scientifiques étaient capables de voir si, par exemple, on se dit que si le Sahara était vert, c'est qu'il y avait de l'eau. Est-ce qu'il reste des traces de cette eau? Est-ce qu'on a encore des traces de rivières, de lacs, etc., etc.?
Et c'est là qu'on apprend que donc sur ce territoire de 9 millions de kilomètres carrés, ça fait à peu près l'Europe, il y avait un fleuve immense qui a un nom qui résonne pour les gens qui aiment le désert, qui est Tamanrasset.
Tamanrasset, oui.
Et qu'on est capable, grâce à la science, de retrouver le cours du fleuve.
Ouais. Pour moi, c'est une terre mythique, le Sahara. C'est une terre mythique au sens rêvé, ne serait-ce que par les Algériens eux-mêmes. Moi, je me souviens, ma maman, quand je suis partie, elle m'a dit « Oh là là, le Sahara !» Elle est née en Algérie, elle a grandi en Algérie, mais elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et elle avait un fantasme comme ça, je me souviens, l'Aïd, il fallait aller chercher les moutons qui venaient du Sahara. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais ils étaient mieux que les autres, quoi. Et du coup, il y a cette espèce de notion de terre mythique, quoi, de terre pure. Et sur le plan de la science et sur le plan de l'aventure, c'est la même chose. Il y a cette même dimension un peu rêvée, fantasmée. Le Sahara, on a toujours pensé qu'un des 12 plus grands fleuves qui ait connu la planète parcourait le Sahara, entre le Maroc et terminait en Mauritanie. Ce fleuve s'appelle le Tamanrasset. Et effectivement, les géographes du 19e siècle imaginent son tracé grâce à la topographie du lieu. Et en fait, au 21e siècle, les hydrographes, les planétologues vont essayer, grâce à la télédétection, de vérifier cette hypothèse. Est-ce que oui ou non, il y a pu avoir un fleuve d'une dimension incroyable qui a pu traverser le désert?
Depuis une dizaine d'années, Philippe Payou cherche les traces du Tamanrasset, un fleuve mythique, aujourd'hui disparu. Les géographes du 19e siècle le situaient au cœur du Sahara central, en se basant sur la seule topographie.
Est-ce qu'il reste des secrets à découvrir aujourd'hui sur le Sahara?
Oui, j'ai très envie d'y retourner, je vous dis oui, pour faire le deuxième volet. Oui, bien sûr, évidemment, tout reste à faire. Par exemple, ce Taman Rasset, on a vu grâce à la télédétection son tracé. On a vu sa largeur, on imagine sa longueur. Normalement, si on était sur une terre accessible, les scientifiques iraient sur place, là où les relevés marquent le tracé du fleuve, et ils feraient des prélèvements. Et grâce à ces prélèvements, on serait capable de dire, oui, il y a eu de l'eau. C'est aussi intéressant de savoir à quel moment le fleuve s'est arrêté. Là, pour le moment, on dit, bon, bah, le Sahara vert, il y a 12 000 ans, il était vert. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 5 000 ans, ça s'est aridifié. Ben, qu'est-ce qui s'est passé pour le fleuve? Il n'a pas pu s'arrêter d'un coup. Donc, à quel moment précisément il a pu s'arrêter? À quel moment on n'a plus de poissons au Sahara? C'est une vraie question. On a plein de vertèbres de poissons, on voit des coquillages. C'est assez extraordinaire de voir ça dans le Sahara. Donc, à un moment, on se dit, mais à quel moment les populations de poissons ont quitté le désert? C'est fou de poser une question comme ça.
Merci beaucoup, Saléa Gerdane. Donc, Sahara vert, l'énigme du paradis perdu, sur le site de France.tv.
Merci.
Going to the Sahara, baby.
Le Sahara côté malien avec Sonroy Blues associé à Iggy Pop. Sahara. Kanga jode amanga bazara lerma kuya gana dame dagali sahara 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 warkamba na di sahara bikama
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Le ramadan s'est achevé et avec lui une période particulièrement active pour les artistes, les organisateurs de spectacles, tous ceux qui font des nuits de ce mois sacré, des nuits de fêtes, de retrouvailles entre amis et en famille. De plus en plus d'acteurs de la scène culturelle se mobilisent pour essayer de faire durer toute l'année, cette activité qui s'empare des foyers sitôt la rupture du jeûne. Reportage à Alger de Keira Yaya.
Au bourrec, moi j'ai mangé.
Moi j'en ai mangé deux, elles sont bonnes.
Pendant le mois de ramadan, après le repas de rupture du jeûne, beaucoup sont à la recherche d'animation après le fthor.
On fait quoi après l'Égypte? Le fthor. J'ai vu sur l'affiche qu'il y a une... Amazir aussi. Je sais qu'il y a une Amazir dans Raïs.
Concerts, spectacles d'humoristes, expositions. Durant le ramadan, la scène culturelle algérienne s'anime. Ce soir, ça se passe à Dar Raïs, une salle de spectacle à l'ouest d'Alger. et Amazir Kateb, ancien leader de Gnawa Diffusion, célèbrent la sortie de son nouvel EP, Rouina. J'assiste aux balances, l'occasion de parler avec l'un des organisateurs de cette effervescence. Tariq Ouhaj et Rassim Mahboub, qui dirigent une entreprise d'événementiel à Alger depuis 2011, ont monté ce concert avec leur équipe. Il s'inscrit parmi les 14 autres spectacles de ce mois-ci. À 44 ans, Tariq connaît bien ce milieu. En 2001, à la fin de ses études, il s'essayait déjà à l'organisation de spectacles et concerts, mais sans autorisation ni structure. En 2008, c'est le manque d'animation après le Ftor qui le pousse avec ses amis à passer à l'action.
Étant jeune, puisqu'en 2008 j'avais 27-28 ans, donc on cherchait des endroits où sortir pendant le mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce que les soirées sont longues, les filles sortent plus facilement, donc on avait nos copines et tout, et puis on cherchait où aller. Et on ne trouvait pas d'endroit digne de ce nom. C'est-à-dire qu'il y avait des cafés, il y avait des trucs comme ça, on pouvait aller prendre un thé, un café, discuter, mais on n'avait pas cet entertainment qu'on cherchait. Et donc, à force de le constater, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas le faire ?
À partir de là, Tariq, entouré de ses amis, Rassim Mahboub, Hassan Mebtouch et Lamine Amrani, ose le périple de l'organisation d'événements.
On se lance et c'est du bouche à oreille. Donc on invite nos amis. On dit, voilà, ce week-end, on ouvre un truc, on met une petite scène. Et on se retrouve au bout du deuxième week-end à avoir 500, 600 personnes qui débarquent. Et à partir de là, il fallait que ça devienne sérieux. Donc on n'était pas équipé, on n'était pas structuré. Donc petit à petit, on a commencé à en faire un métier.
D'un terrain de golf abandonné à un parking de voitures transformé en lieu de spectacle, ils essaient de se trouver une place. Ils s'accrochent et prennent conscience de la demande grandissante. Une dizaine d'années plus tard, les soirées du Ramadan deviennent un moment phare. Ce soir, Amazir Kateb affiche complet. Mais ces événements ne peuvent pas avoir lieu pour le moment sans sponsor.
C'est pas facile d'avoir du sponsoring. Je vais te donner un exemple. Nous, on a envoyé 60 demandes, 60 dossiers. On en a eu 3 qui ont abouti. Je tiens à les remercier.
Et comment ça se passe alors ? C'est gagnant-gagnant ?
De toute façon, le public est là parce qu'au final, c'est la cible que tout le monde cherche, que ce soit nous ou le public veut sortir, veut un spectacle. Nous, on ramène ce public et on propose que d'autres viennent avec nous et, voilà, et discutent avec ce public quelque part. Nous, on a une salle de 700 places. Donc déjà, il y a les 700 personnes qui viennent. Donc les marques, forcément, elles arrivent. Nous, on diffuse des spots, ils offrent des cadeaux, ils font gagner avec des concours et tout ça. Donc forcément, bien sûr, c'est gagnant-gagnant.
Et une économie se crée autour de ça ?
Clairement, il y a une économie. Nous, à l'agence, on est 17 permanents dans la société. Mais sur ce genre d'événement, on dépasse les 100. Il y a des hôtels qui travaillent avec nous, des restaurants qui travaillent avec nous, des locations de voitures, des transporteurs, des compagnies aériennes. C'est toute une économie qui gravite autour d'événements, de spectacles.
On sait qu'il y a un gros potentiel artistique en Algérie. Les sponsors seraient-ils prêts à vous suivre pour pérenniser ces événements tout au long de l'année ?
Moi, je pense que oui. Il faut qu'on mette en avant les atouts qu'on a. Ramadan, c'est plus facile à attirer du monde parce que les gens aiment sortir et cherchent à sortir. Et même les artistes, ils sont bookés partout et c'est excellent ça. C'est vraiment une excellente chose. Dans toutes les wilayas, c'est pas qu'à Alger. Mais Ramadan, ça devient quelque part une obligation pour que les gens organisent. Ça serait bien que cette obligation soit tout au long de l'année, les 12 mois, et je m'inclus dedans. Voilà.
Le dernier mot de Tariq concerne les jeunes.
Moi, vraiment, j'aimerais encourager des plus jeunes que nous à faire ce métier. Parce qu'il est nécessaire, vraiment, on en a besoin. Et moi, je me mets à disposition pour conseiller ou même aider ou même prendre des jeunes en stage pour pouvoir leur montrer le métier, les mettre dans la réalité.
Pour le futur, le souhait de Tariq, ouvrir une salle et produire des spectacles à l'année.
Le reportage à Alger de Keira Yaya pour Carrefour du Maghreb. Carrefour du Maghreb à la réalisation Françoise Grelot. À bientôt.